chance qu'on sème.
Salut tout le monde, bienvenue à Une chance qu'on sème. Je m'appelle Pierre Lecôte et je suis toujours et encore en compagnie de mon ami Pierre-Antoine Gilbert. Salut PA.
Salut Pierre-Luc.
Pierre-Antoine, aujourd'hui, on reçoit Bernard Lavallée, nutritionniste. Peux-tu me dire, toi, qu'est-ce qu'un nutritionniste fait dans notre balado?
Le nutritionniste urbain, Pierre-Luc, il a 100 000 followers là, sur Facebook. Là,
qu'on a... Ah, c'est pour ça qu'il est dans notre balado.
On n'avait pas le choix de l'inviter, tu sais, on voulait qu'il partage la bonne nouvelle. Blague à part, écoute, je suis Bernard Allais depuis quelques années sur les différentes plateformes où il intervient. Parce que, ma mère à moi était nutritionniste, donc c'est un métier que pour lequel j'ai un grand respect. Puis un nutritionniste ou une nutritionniste n'aurait pas nécessairement à se soucier de la provenance de l'aliment ou de la tomate, par exemple, que l'on met dans notre assiette. Devrait normalement plus nous inciter à en manger parce que c'est bon pour la santé. Mais tu vois, Bernard, lui, il aime toujours ça, mettre l'agriculture d'ici de l'avant, l'agriculture locale de l'avant, des fois même biologique ou non, ça, c'est pas grave. Mais ce qu'il aime, finalement, c'est de faire le lien entre le champ et l'assiette. Et ça, on se rejoint là-dessus à 100 000 à l'heure.
Mais il le fait d'ailleurs avec un de ses produits. Il vend des semences, lui.
Oui, il revend des semences sur son site. Ça a été un hit chez nous à Noël. J'ai offert ça. Je cherche toujours des bonnes idées originales. Puis là, chez ma sœur, chez mon beau-frère, il y a des piments forts qui poussent, qui viennent de chez Bernard. Plein de tomates variées aussi. L'emballage est joli. Puis je trouve que c'est bien fait pour l'échelle peut-être domestique. Les gens qui font des plus petits jardins ou qui jardinent sur leur balcon comme lui le fait. C'est ça. C'est vraiment inspirant tout ce qu'il peut faire comme lien entre l'assiette qu'on mange et le jardinage.
Bon, on va arrêter de voler des punchs. Là, parce que de toute façon, les gens vont nous écouter. Ils vont entendre Bernard Lavallée, qui est un excellent communicateur. Il a lui-même un balado très intéressant qui s'appelle « On s'appelle et on déjeune » sur Audio à Radio-Canada. Le chanceux, lui, il a été accepté par Radio-Can.
Oui, exact. On n'a pas eu l'appel, nous autres, d'ailleurs, pour déjeuner. Fait que, bon, on ne doit pas être assez bon, il faut croire. Puis, si jamais Radio-Can veut faire « On s'appelle et on jardine », on lève la main, on est présent.
Fait que... Ouais, on a la main dans les airs présentement. Bon, alors bonne écoute, mesdames et messieurs. Mais avant, on va écouter un doux message de nos précieux collaborateurs, partenaires et commanditaires qu'on aime. Merci à notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui nous accompagne dans cette belle aventure de la saison 2 de Une chance qu'on se sème. Ben, je dis saison 2, mais en vérité, moi, ça fait des années que ma fermière de famille m'accompagne dans mon jardin. À chaque année, je me fais bouffer mes tomates cerises par mes enfants. Fait que je vais voir ma fermière de famille, puis j'achète ses légumes, ils sont parfaits.
Bon, enfin une bonne raison de ne pas suivre mes conseils. Ça va te donner l'occasion de rencontrer la personne qui fait pousser tes légumes bio et locaux. Mais je suis curieux, comment t'as fait pour la trouver, ta fermière de famille?
Ben, j'ai été sur le site du Réseau des fermières et fermiers de famille, au fermierdefamille.com. Puis là, tout de suite, il y a une carte qui me dit quels sont les membres du réseau les plus près. C'est full techno. C'est la nouvelle façon d'acheter des légumes bio.
Ben, c'est pas tout à fait nouveau. La RFF soutient les maraîchères et les maraîchers depuis 25 ans. Ils sont maintenant au moins 150 fermières et fermiers de famille. D'Ottawa à Moncton, en passant par le lac Saint-Jean et le Saguenay, tu vas pouvoir manger ton flétan du fjord avec des oignons de Saint-Fulgence.
Ben, c'est génial, ça, parce que ça permet aux consommateurs de se trouver un maraîcher bio et local, puis ça permet aux fermières et fermiers de rejoindre l'assiette du monde. C'est une belle histoire dans laquelle tout le monde s'aime.
Oh!
Hey, PA, j'ai découvert quelque chose de vraiment intéressant, ça s'appelle Fertifras.
What the frass?
Non, Fertifras, connais-tu ça?
Non, ça sonne comme un engrais à base de déjection d'insectes élevé par tricycle à Montréal, 100% bio, 100% local, mais non, je connais pas ça.
Mais là, tu me niaises-tu, c'est exactement ça. Ça a un LGBT de 332.
NPK, PL.
OK, PA, NPK. Et 332, c'est-tu aussi bon que 20-20-20?
Ben, c'est bien mieux comme produit. Premièrement, c'est naturel, c'est certifié biologique, c'est riche en matière organique, ça nourrit donc le sol, pas juste la plante.
Non, mais c'est quoi l'intérêt? Moi, c'est pas du sol que je veux faire pousser.
C'est la même différence que juste manger des pilules ou manger un bon repas complet. En plus, tu peux aussi en donner à tes plantes d'intérieur. Tu l'as trouvé où, ton Fertifras?
Sur le site de fertifras.com, mais je sais qu'il y en a au centre jardin proche de chez vous.
Cool.
J'ai hâte de voir la frasse que tu vas faire quand tu vas voir la grosseur de mes tomates.
Bienvenue à Une chance qu'on sème. Une chance qu'on sème. Une chance qu'on sème.
Bernard, bonjour. Merci de participer à Une chance qu'on sème avec nous aujourd'hui.
Ben merci de l'invitation, je suis vraiment content.
Je vois, Bernard, que sous ton nom, c'est écrit DTPMSC. Ça veut dire quoi, ça? Dentiste, prothésiste, menuisier, scientologue?
J'étais comme, où tu vois ça, là? oui, DTP, c'est pour diététiste professionnel. Donc, moi, je fais partie d'un ordre professionnel. Je suis nutritionniste, ou diététiste, c'est un synonyme. Donc, c'est les petites abréviations qu'on voit à côté. DTP, c'est comme mon titre professionnel. Et MSC, c'est parce que j'ai une maîtrise en sciences.
Donc là, tu maîtrises quelque chose, puis en plus, tu as un ordre professionnel. Ça veut dire que tu vas faire très attention à ce que tu dis aujourd'hui. Là.
Toujours. Écoute-moi, là, je suis le maître. Je suis maître, en fait, justement, à faire attention à ce que je dis. Je pense que c'est ça, ma spécialité.
On va mettre ça à l'épreuve avec toi aujourd'hui. Moi-même, Pierre Lecoude et Pierre-Antoine Gilbert, notre fidèle Je sais tout de Une chance qu'on s'aime.
Oh, ça, c'est m'en mettre beaucoup ses épaules. Moi aussi, je me garde toujours une gêne, Bernard, parce que je sais pas qui m'écoute. Puis des fois, je me rends compte que c'est mes élèves. Fait que c'est ça. Je marche un peu sur des œufs. C'est drôle, hein, nutritionniste, diététiste. Moi, dans le temps, ma mère était diététiste. Mais là, c'est devenu quand que vous êtes devenus des nutritionnistes?
Okay, ben oui, ben en fait, avant, le terme diététiste était le terme le plus populaire, je te dirais. Puis c'est le premier terme qui a été utilisé. En anglais, c'est dietitian. Fait que, tu sais, diététiste était comme un peu la formulation, je te dirais, qui était la plus populaire. Les personnes d'une autre génération qui pratiquent encore aujourd'hui, qui sont plus âgés que moi.
Les vieux.
souvent vont utiliser diététiste encore parce qu'elles sont habituées et que c'est ça le terme que j'utilisais. Mais je te dirais que de ma génération, on n'aime plus vraiment ce terme-là puis on utilise plutôt nutritionniste. D'ailleurs, notre ordre professionnel vient tout juste de changer de nom après, je pense que ça fait 65 ans maintenant que l'ordre existe. Puis on s'appelle aujourd'hui l'Ordre des nutritionnistes diététistes du Québec. Donc, parce qu'avant, on n'avait pas le terme nutritionniste qui était dans le titre, puis ça ne représentait plus vraiment notre philosophie, puisque dans diététiste, tu as diète.
Ouais.
Puis les diètes, ben, comme ça ne fait pas vraiment partie de notre philosophie en réalité, ou du moins, ça n'a plus la même connotation, je pense, aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Parce que ça veut quand même dire une diète, ça veut dire ce qu'on mange, mais là, on l'attribue à ce qu'on ne mange pas, finalement.
Ben, on l'attribue aujourd'hui à des... Ben, moi, comment je l'attribue, c'est à des règles externes. Fait que des règles de quelqu'un qui va dire quoi manger, puis quoi pas manger, puis quand manger, puis comment manger. Fait qu'on voit comme quelque chose de très rigide, strict, restrictif. Mais t'as raison qu'à la base, si on recule, le terme diète, c'est juste de dire ce que la personne mange. Mais c'est plus vraiment ça qu'on... La connotation, je pense, du terme diète aujourd'hui.
Donc, il y avait un côté un peu négatif qui pouvait être associé à ça, finalement. Là.
Moi, je pense que oui. Je pense que oui, puis on a tellement tapé sur la tête des diètes dans les dernières décennies, puis je veux dire, moi, nous-mêmes, comme nutritionnistes, on tape sur la tête des diètes, donc je pense que c'est une très bonne chose qu'on change le titre, mais tu sais. Encore une fois, peut-être que pour nous, c'est genre, tu sais, c'est super important parce que c'est notre métier, puis on pense juste à ça. Pour les autres dans le public, ils s'en foutent un peu, mais je pense que vraiment, ça change la perception de notre métier, en fait. De changer le titre.
Puis moi, on s'intéresse à l'autosuffisance, pas l'autosuffisance totale, mais quand même une certaine partie d'autosuffisance. Donc, l'ultime diète pour des geeks jardiniers comme nous autres, ça serait qu'on mange à l'année tout ce qu'on fait pousser dans notre jardin. Tu penses quoi de ça, toi, un régime québécois qui évoque une autre époque où est-ce que la patate est molle en mai et puis on la mange quand même, puis c'est ça notre diète.
Ben moi, j'ai plus le goût de vous demander comme à quel pourcentage vous êtes rendu, tu sais. Parce que pour moi, puis je vais être vraiment honnête, puis je suis vraiment, on peut en parler, pour moi, c'est un rêve utopiste, puis je vois pas comment on peut y arriver. Fait qu'on on peut s'imaginer, puis moi, j'aime bien ça, là, pelleter des nuages, puis m'imaginer des choses. On peut faire l'exercice, mais je serais d'abord curieux de savoir, vous... Ben, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça?
Tu vois ça, Pierre-Luc, c'est un gars de science. Là. Il est comme moi, lui. Ce qui m'intéresse, c'est les nuances.
Sors-moi ton fichier Excel.
Non, mais je vais te le sortir. Je vais te le dire. Check bien comment que moi, je vois ça. Okay? Moi, j'ai une façon de conserver les aliments correctement. C'est ma sauce tomate dans mon congélateur ou dans mon pot maçon. Parce que ma carotte a flétri, ma betterave aussi. Fait que la seule façon que je suis capable de me nourrir à l'année avec mon jardin, c'est en faisant du chili ou de la sauce à spag. Fait que si je fais un litre de sauce à spag, si je consomme un litre de sauce à spag par semaine, donc ça me prend 52 litres pour mon année, ben là, j'ai un repas sur 20, disons, qui m'appartient, qui vient de mon jardin. Ben, si je fais 100
litres de sauce asperge, j'ai deux repas sur 20, donc je suis à 10 %. Fait que moi, je trouve que mon objectif de 10 % il est facile à réaliser, mais 100 %, je peux pas faire pousser mon papier cul encore, faut que j'aille à l'épicerie, c'est sûr.
Ah, mais même si on reste juste, restons juste dans l'alimentation de toute façon, là,
ouais.
Mais oui, tu sais, c'est vraiment bien d'être capable de faire pousser une partie de son alimentation. Tu sais, honnêtement, là, d'un point de vue nutritionnel, tu sais, si c'est un peu ça la question, c'est sûr que des aliments qui poussent près de chez nous, généralement, sont un peu plus nutritifs. Pourquoi? Parce que dès le moment où tu cueilles, ben, pour différentes raisons, entre autres parce que quand tu cueilles un aliment selon le stade de maturation, ça change la valeur nutritionnelle. Donc, les aliments qui sont cueillis avant la pleine maturité, loin de chez nous, pour voyager sur des milliers de kilomètres, ça se peut qu'ils soient moins nutritifs un peu. Et aussi, dès que tu as cueilli ton fruit ou ton légume, ben, il se met à perdre une certaine partie de sa valeur nutritive. Et plus longtemps il va rester en transport, dans le supermarché, sur les tablettes, etc., ben, plus il va perdre de sa valeur nutritive. Oui, ça, c'est vrai. Mais est-ce que ces pertes-là sont significatives et vont avoir un impact sur la santé des gens? La réponse, j'ai le goût de te dire non. Restons peut-être dans le gris, dans le probablement pas, dans le sens où on sait, là, manger des fruits et des légumes, qu'ils soient frais, locaux, ou en conserve, ou congelés, ou séchés, ou c'est bon pareil. Tu comprends? Puis le plus important pour moi comme nutritionniste, c'est que les gens mangent des fruits et des légumes, peu importe sous quelle forme. Puis on le voit très bien que peu importe sous quelle forme, c'est nutritif, ça répond aux besoins d'un être humain, puis il n'y a pas de problème. Donc oui, ça se peut que ce soit un petit peu plus nutritif, mais pour moi, la différence n'est pas significative. Tu sais, ça ne serait pas la raison numéro un de me dire « je vais cultiver moi-même toute ma bouffe ». Ce ne serait pas de me dire « je vais être en meilleure santé », ce ne serait pas ma raison numéro un.
Ben là, t'es un peu là, wow. Le guide alimentaire canadien, là, il nous parle d'être entouré, de créer un événement autour de la bouffe, de déguster, d'apprécier. Il y a des valeurs maintenant qui sont comme morales ou disons, qui sont dans le comment on mange. Mais le jardinage, ça rentre là-dedans, non?
Je pense que oui. Ah, puis t'as tout à fait raison, hein, parce que là, évidemment, j'ai répondu de la façon convenue, c'est-à-dire je t'ai parlé de la valeur nutritive des aliments, mais la réalité, c'est que manger, c'est un acte qui est pas mal plus holistique, entre guillemets, ou pas mal plus englobant que juste nourrir ton corps. C'est une des fonctions des aliments, mais les aliments, ça a bien d'autres fonctions dans nos vies, puis c'est central à nos traditions, c'est central à notre culture, ça nous fait créer des liens avec notre entourage, que ce soit nos communautés, nos voisins, nos amis, notre famille, c'est lié au plaisir. Donc, tout ça, c'est des fonctions différentes. Puis oui, je pense que le jardinage, c'est une façon de créer un lien privilégié avec nos aliments. Et moi, comme nutritionniste, donc moi, de façon personnelle, j'ai toujours eu un intérêt pour le jardinage avant d'être nutritionniste. Là, j'ai toujours trippé à faire pousser des aliments. Mais aujourd'hui, comme nutritionniste, je vois vraiment l'intérêt du jardinage. Encore une fois, pas parce que les gens vont être capables de se nourrir à 100%, mais parce que ça crée un lien privilégié qu'on a perdu pour beaucoup avec notre alimentation.
Wow! C'est un peu la l'angle sur lequel on voulait jaser avec toi, Bernard, parce que un nutritionniste ou une nutritionniste pourrait être complètement détaché de la provenance ou de la source de l'aliment, mais simplement rattacher son importance à sa valeur nutritionnelle.
Mm-hmm.
Mais toi, tu fais souvent l'apologie, finalement, du jardinage et de l'agriculture de proximité au travers de tes interventions médiatiques.
Oui, bien, c'est que à la base, la nutrition, c'est la science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé. Puis c'est déjà une formation qui est vraiment remplie. Là. C'est un bac de 120 crédits. Fait que dis-toi que c'est un bac déjà plus gros que la majorité des bacs. Puis malgré tout, on a donc pas le temps d'aborder tous les aspects de l'alimentation. C'est impensable. Donc, très souvent, oui, ça va se limiter quand même au lien entre ce qu'on mange et la santé. Mais je te dirais qu'en ce moment, on est en train de voir Moi, en tout cas, je le vois, là, des changements. Donc, de plus en plus de gens, de nutritionnistes qui s'intéressent pas juste à cet aspect-là. Puis moi, ça a toujours été ça. Comme au début, j'ai considéré ma formation de nutritionniste comme « OK, je sais tout des aliments, je comprends tout, je suis le spécialiste de l'alimentation. » Puis après ça, j'ai commencé à lire des livres qui étaient écrits pas par des nutritionnistes sur l'alimentation. Puis j'ai fait comme « Oh mon Dieu, OK, finalement, je sais rien pantoute. » Comme tout ce que j'ai appris, c'était juste un micro-aspect de l'alimentation. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à plein d'autres aspects. Donc, l'agriculture urbaine, l'impact environnemental, ça a commencé comme ça. Mais aujourd'hui, je continue à décloisonner beaucoup ma réflexion sur l'alimentation. Puis, tu sais, comme là, je suis à l'université en ce moment, je suis retourné à l'école. Puis je fais un programme de deuxième cycle en études de l'alimentation. Grosso modo, c'est des sciences sociales, mais appliquées à l'alimentation, avec des cours d'éthique, d'histoire, d'anthropologie, de sociologie. Ben, fait que là, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai encore 12 000 angles par rapport à l'alimentation que j'ai pas encore abordé, puis que... Fait que c'est ça. Grosso modo, c'est juste pour dire que c'est vraiment plus complexe. Puis s'attarder juste à l'impact nutritionnel, je pense que c'est vraiment réducteur. Puis malheureusement, je pense pas qu'on fait une bonne job si on ne s'attarde qu'à l'impact nutritionnel des aliments puis qu'on regarde pas le reste. C'est trop central à nos vies.
Oui, tout à fait.
Est-ce que le nutritionniste, c'est une science qui est jeune?
Ben, ça dépend, parce que depuis toujours, l'être humain, on a quand même des connaissances sur l'impact des aliments sur notre santé. Par exemple, regarde n'importe quelle population autochtone partout sur la planète connaissait toutes les plantes dans leur entourage, dans l'environnement. Ils savaient tous comme quelle partie de plante avait tel effet sur leur santé, quoi manger quand tu étais malade, tout ça. Donc, depuis toujours, on a des connaissances sur ce qu'on mange puis l'impact que ça peut avoir. Donc ça, sauf que c'était pas la science de la nutrition en tant que telle. La science de la nutrition, c'est à peu près une science qui a 200 ans, je te dirais. Et c'est une science qui est née quand on a découvert que dans les aliments, il y avait des nutriments. Donc, des protéines, des glucides, des lipides, après ça, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, etc. C'est à ce moment-là que la science de la nutrition est née. Et donc, en réalité, même si de façon officielle, la nutrition, c'est la science qui s'intéresse au lien entre les aliments et la santé, moi, j'ai plus le goût de dire que c'est la science qui s'intéresse aux nutriments et à la santé. Puis c'est la façon dont on parle de l'alimentation au 21e siècle, c'est pas mal plus ça qu'une vision englobante, je te dirais, des aliments.
Moi, je vois tellement de parallèles avec l'agronomie que j'ai étudiée, qui est la science de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Puis notre faculté, nous, il y avait la gang de nutrition qui était aussi présente là, sur les mêmes lieux. Il y avait
toi,
pas...
c'est à Québec?
Oui, à l'Université Laval, à la Faculté des sciences de l'agriculture. Il n'y avait pas beaucoup de Bernard, en tout cas, dans cette gang-là, quand ils se joignaient à nous au party, là. Puis je sais pas si...
ben déjà, dans quel sens il n'y a pas beaucoup de Bernard? Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de Bernard, point de mon âge. Puis il n'y a pas beaucoup de gars en nutrition non plus. Fait que déjà, ça fait deux façons de ne pas avoir beaucoup de Bernard.
Puis en plus, le PA, il parle du party, là. Fait que une nutritionniste dans un party, ça boit des smoothies.
On n'avait pas beaucoup de party, nous, non plus.
Non.
Je te dirais que on en avait. Mettons, dans ma classe, on en faisait un peu, puis c'était vraiment ma gang, genre, qui allait dans les parties, mais on était bien ben studieux.
On parle de quelle université, Bernard, ici, là?
Moi, j'étais à l'Université de Montréal.
Ah, c'est ça, c'est plus Stock-up qu'à l'Université Laval, je pense.
clairement. Quoi que tu me dis qu'il n'y avait pas plus de Bernard à ton party,
non.
Fait que je suis pas sûr, finalement.
Non, t'as raison.
Plus de Bernard, plus de plaisir, là, visiblement.
Moi, je dis rien, là.
Moi, je pense que oui. Plus de monde, plus de plaisir. Mais nous, en tout cas, on a un petit cours de nutrition dans lequel on n'apprenait pas nécessairement grand-chose. Puis c'était divisé en deux, Bernard. C'était les monogastriques et les polygastriques. C'était la façon dont on l'étudiait.
Ça, c'est quoi? C'est ceux qui ont un estomac puis quatre estomacs?
Oui, grosso modo, ah, ouais, c'est ça. Fait que les ruminants versus les porcs.
Mais je serais intéressé de savoir, quand tu dis que tu entends des parallèles par rapport à mon discours, puis toi, ce que tu as vu en agronomie, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Oui, bien, c'est tout. Dans le fond, c'est que c'est des sciences assez complexes, puis il y a des sciences relativement évolutives. Puis quand on l'étudie, bien, on fait une espèce de survol du domaine d'études, puis après, quand on le met en pratique ou qu'on continue à lire, on se fait toujours former, là, on continue toujours à apprendre, bien là, on se rend compte que bien, nos 4 ans d'études, parce que nous aussi, c'est un 120 crédits, bien, c'est comme une base. Mais un peu comme j'explique souvent quand j'enseigne, moi, le but, là, c'est vraiment que les gens y apprennent à apprendre. Donc, c'est la grande compétence que j'essaie de transmettre au collégial, c'est d'apprendre à apprendre, puis d'aller chercher l'information, finalement, par soi-même. Mm-hmm. Donc, tu peux pas tout retenir ou tout apprendre dans un bac de 4 ans, là, mais n'empêche que ça fait de toi un professionnel de ton secteur, puis ça fait de toi quelqu'un qui en connaît plus que la moyenne des gens sur le sujet. Là. Ça, c'est indéniable.
Puis, en plus, là, moi, c'est ce que je trouve fascinant, puis c'est une encore plus belle illustration. Tu as étudié, donc, mettons, la formation de base de 120 crédits pour comprendre la production des aliments. Mm-hmm. Puis moi, la formation de 120 crédits pour comprendre quand tu manges l'aliment, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Entre nous deux, il y a encore plein d'échelons du système alimentaire qu'on n'a pas étudié.
Mm-hmm.
Puis malgré tout, nos deux formations ensemble, c'est comme, qui va faire ces deux formations-là, tu comprends?
Ouais.
C'est tellement un domaine vaste qu'on ne peut pas s'attendre, l'alimentation ou le système agroalimentaire, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne comprenne, pas qu'elle comprenne tout, je veux dire, on peut quand même avoir une bonne compréhension, mais d'être vraiment spécialisé du système alimentaire au complet, c'est impossible, c'est tellement énorme. Puis d'un côté, quand j'y pense, c'est comme effrayant parce que je me dis, my God, c'est humbling, là. J'ai pas le terme, ce serait quoi?
Faut que tu l'abordes avec humilité.
Exactement. C'est très humiliant.
Ça, c'était les parties à PA, ça.
Mais non, c'est ça, tu sais, c'est comme, faut regarder, je pense, le système agroalimentaire avec humilité puis se rendre compte que c'est impossible de tout comprendre puis que d'être vraiment des spécialistes de A à Z. Mais de l'autre côté, c'est tellement stimulant parce que tu dis, genre, jamais dans ma vie, je vais tout comprendre. Comme je vais toujours pouvoir continuer à apprendre des nouvelles choses puis être stimulé par des nouveaux angles liés à mon domaine d'études. Et je vais jamais m'ennuyer. Grosso modo, c'est ça. Puis c'est ce que j'aime le plus de l'alimentation.
C'est un peu le rôle que tu joues, il me semble aussi. Tu essaies d'aiguiser la mine de la curiosité chez les gens par rapport à tout ce qui les entoure au niveau nutritionnel. Tu es comme un peu un radar à bullshit bien développé.
Ben, j'essaie toujours. Puis en plus, c'est que plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien. Fait qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de misère à dire aux gens comme « faites ci, faites ça, écoutez-moi », puis tout ça. Donc, t'as raison, j'essaie vraiment d'aiguiser la curiosité. Puis je pense qu'une des phrases que je dis le plus souvent dans mes chroniques, continuellement, puis c'est comme un réflexe, fait que des fois, je me réécoute, puis je suis comme « oh mon Dieu, j'ai encore dit ». Mais c'est comme...
Ah non, mais là, tu vas pas le dire dans notre...
Je vais le redire.
Ah non, on va
mais,
comme ça, okay, vas-y.
Mais là, c'est genre méta, parce que genre, je fais une critique de mon propre discours, là, fait que ouais, c'est comme dans un autre contexte que je vais l'utiliser.
C'est correct, t'as le droit.
Mais je dis souvent comme... Là, je vous dis ça juste pour pousser la réflexion un peu plus loin. T'sais, donc, juste pour dire, je vous dis pas la réponse. C'est juste, regarde, je te lance ça, fais ce que tu veux avec. Puis ça, là, c'est vraiment mon approche de la vulgarisation. C'est vraiment ça. C'est comme, je te donne pas nécessairement la réponse. Moi, je t'envoie mes propres réflexions par rapport à ça. Puis fais-en ce que tu veux. Puis avec cette information-là, fais-toi ta propre tête par rapport à ce sujet-là.
C'est drôle, moi, je dis, je le sais pas.
Ah oui, mais moi aussi. Ah, mais clairement, là. Non, mais clairement.
Comme t'sais. Quoi, il y a des 120 crédits qui sont plus riches que d'autres,
possiblement. Il y en a qui font le plus le party que d'autres.
Non, mais c'est impossible de tout savoir.
T'as raison, mais on n'est pas dans le cas d'un syndrome de l'imposteur, là.
Non. Des fois, oui, mais non. Tu sais, non, parce que je dis pas des choses que je sais pas, justement. Tu sais, je pense que...
C'est assumé, là.
Exactement. Tu sais, tout ce que je dis, c'est parce que j'ai lu quelque part ou je le crois vraiment ou je le pense vraiment, ça, c'est sûr. Donc, dans ma tête, je ne mens jamais ou je ne dis jamais quelque chose que j'ai pas comme une réflexion en arrière ou de la science en arrière pour l'appuyer. Puis ça, c'est comme ma sécurité. j'ai goût de dire ma sécurité pour mon anxiété, c'est ça, genre. C'est comme... Parce que si je mentais aux gens ou si je disais des choses que j'étais pas sûr en public... Hey, je mourrais là, donc c'est comme c'est impossible. Fait que même j'ai quasiment le goût de dire que c'est quasiment plus égoïste de ma part là, dans le sens que c'est pas juste parce que je veux bien informer les gens. Oui, c'est le cas, mais c'est aussi parce que hey, je mourrais de dire quelque chose que je suis pas sûr.
Moi, je pense que c'est vraiment le rôle des professionnels, surtout ceux qui sont au niveau de la science. Puis tu sais, je vais te lancer des fleurs, mais j'ai écouté à quelques fois des interventions que tu as fait en rapport avec le bio, l'agriculture bio. Puis de la façon que tu l'apportes du point de vue scientifique, écoute, je suis à la même place que toi. Fait que t'entends ça, puis tu te dis, ben garde, c'est ça le constat où on en est au niveau scientifique. Tout à l'heure, tu parlais du fait de récolter des légumes mûrs, mais souvent aussi dans le bio, les gens vont te parler que le goût est meilleur. Mais ma tomate, ouais. Moi, je l'ai laissée mûrir sur le plant, là. Elle n'a pas été récoltée verte, là. Fait que c'est certain qu'au niveau du goût, sa teneur en minéraux, en vitamines, je veux dire, est vraiment là, au meilleur moment, puis tu la manges le jour même ou les jours qui suivent. C'est la force de ce qu'on fait dans un jardin aussi, parce qu'on va aller cueillir au moment là, optimal. Le fruit ou le légume, du moment qu'il est récolté, sa qualité fait que dépérir. Mais nous, notre rôle, comme les producteurs, les productrices, ou autant au niveau du jardin, c'est finalement de le récolter au stade là, optimal, donc le meilleur possible. Fait que ça, moi, je t'en remercie, là, parce que pour le bio, c'est on connaît des gens qui sont plus détracteurs un peu ou qui le remettent en question, mais au-delà de l'alimentation, c'est aussi les gens qui pratiquent ce métier-là pour lesquels ça fait une belle différence, puis ça envoie des fermiers et des fermières en région aussi qui font faire vivre ces régions-là. Là.
Ben merci. Puis, tu sais, honnêtement, justement, je trouve ça intéressant ton truc par rapport au goût parce que, dans le fond, là, justement, une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'avoir une approche plus englobante de l'alimentation, c'est de se dire, OK, mais pourquoi les gens, ils mangent? Est-ce que vraiment les gens, quand ils cultivent dans leur jardin leurs tomates, puis ils la mangent, puis ils sont comme, oh, yes, il y a plus de vitamine C, comme, non. Ils la mangent, puis c'est comme, c'est vraiment bon. Point final. Puis t'as raison que tu sais les aliments que t'as cueillis, entre autres, je pense, parce que t'as créé une relation particulière avec ton plant de tomate, mais réalistement aussi parce que ouais. Tu l'as cueilli au meilleur moment, parce qu'elle est encore chaude des rayons du soleil, puis que d'un point de vue sensoriel, la chaleur fait que tu vas plus goûter les saveurs puis tout ça. Il y a comme probablement plein de raisons, même des raisons qu'on comprend pas, mais ça goûte meilleur. Puis si tu trouves que ça goûte bon des légumes, ben tu vas en manger. Puis on sait que c'est bon pour la santé manger des légumes, fait que c'est une autre bonne raison de... Encore une fois, on n'a pas besoin de parler nutrition pour faire de la santé publique, mettons, ou pour parler des bénéfices des fruits et des légumes. T'sais. On peut l'aborder de d'autres façons.
Ben, ma relation avec 50 plants de tomates est probablement différente que quelqu'un qui en a juste un plant sur son balcon.
Toi, t'as plus de nom pour les 50.
Moi, ouais, quand t'as juste un plant de tomates cerises sur ton balcon, là, ça doit être bon en tabarnak, une petite tomate.
Mais oui!
Parce que là, t'as vraiment une relation intime avec elle, là.
Ben absolument. Puis tu sais, moi, donc ça fait genre, comme 10 ans à peu près que je cultive sur mon balcon. Puis ça fait à peu près une dizaine d'années que je vis à Montréal en appartement, en condo, tout ça, donc avec un plus petit espace. Puis oui, là, tu sais, je veux dire, des tomates cerises, c'est toujours un indispensable sur mon balcon parce que peu importe qui vient me visiter, je sais que je vais toujours avoir au moins une petite tomate à lui faire goûter puis qu'il va être juste content de l'avoir cueillie puis de la manger. Puis ça crée comme un moment le fun. C'est comme un cadeau, tu sais, c'est le cadeau le plus niaiseux du monde, là, une petite tomate cerise, mais c'est un cadeau quand même pour les gens parce qu'ils savent que hey, j'ai passé, ça fait comme 4 mois là, que je m'en occupe de mon plant, puis je te donne une tomate comme. Fait que c'est un beau cadeau, mais aussi parce que c'est ça, c'est super bon, c'est chaud du soleil, c'est comme c'est juste parfait. Puis tu vois, cette année, l'été dernier, pardon, en fait, ça fait 2 ans là, que je cultive sur ma rue. Donc je cultive des saillies de trottoir. Puis j'ai planté quasiment juste des tomates cerises.
Ouais, OK.
Parce que je voulais quelque chose que n'importe qui passe peut facilement se le cueillir puis le manger sans avoir à le préparer ou quoi que ce soit. Puis c'est tellement un succès, là, je capotais. L'année passée, ma rue, chaque fois que je regardais mes saillies de trottoir, il y avait quelqu'un de penché en train de fouiller dans les plants de tomates pour en ramasser. Puis je veux dire, il y en avait à l'infini, là, ça avait juste pas de bon sens. Mais fait que pour moi, c'était comme, wow, j'ai comme réussi à créer un lien avec mes voisins, un lien comme on s'est pas nécessairement parlé, on s'est pas vu, mais j'ai créé un lien avec vous parce que vous prenez de la nourriture que j'ai plantée. Fait que ouais, les tomates cerises, moi, j'ai vraiment une belle relation avec elles.
C'est quoi une saillie de trottoir? C'est là où l'arbre est planté?
Ouais, dans le fond, t'as le carré d'arbre. Les carrés d'arbre, c'est sur le trottoir où est-ce que c'est relativement plus petit. C'est quasiment la grosseur d'une dalle de trottoir à peu près. Donc ça, c'est les carrés d'arbre. Que ça aussi, on peut les planter de manière générale. Mais moi, c'est carrément la ville sur ma rue. Ils ont refait des rénovations de la rue. Et c'est carrément des... Comment je peux dire ça? C'est gros. En gros, c'est un gros bout de terre pour planter plusieurs arbres ou des aménagements paysagers de okay. la ville. Fait que je suis vraiment poche en dimension. Fait que je veux même pas m'essayer de dire des dimensions. Mais c'est gros. Fait que j'ai pu planter...
C'est, bon.
C'est vraiment gros. Fait que c'est un accès à la terre extrêmement rare en ville.
Surtout, t'es dans quel quartier, toi?
J'habite dans Hanssik, à Montréal.
OK.
Mais partout à Montréal, il y a de ce genre d'aménagement-là ou de lieux qu'on peut s'approprier puis cultiver. Mais c'est ça, c'est un accès qui est tellement rare en ville que je suis sauté sur l'occasion à la seconde que c'est arrivé.
C'est merveilleux, ça. Puis ça va faire boule de neige, là. C'est comme tu dis, il y en a d'autres à Montréal qui commencent à le faire. Il y a des ruelles aussi qui verdissent beaucoup, mais j'imagine qu'on est plus en bac surélevé ou...
Il y a de tout. Honnêtement, il y a de tout. Je suis vraiment pas un expert des ruelles vertes, mais j'en ai vu des ruelles vertes où ça a l'air du moins d'être sur la terre.
OK.
Là.
Ah ouais, OK.
Carrément. Donc, le béton est enlevé. T'sais, l'asphalte est enlevé, puis on cultive. Mais tu sais, généralement, quand c'est ça, c'est pas vraiment comestible. Là. Dans le sens que ce que j'ai vu, c'est plus, mettons, du gazon ou des fleurs ou des trucs comme ça. Là. Mais j'en ai vu là, des ruelles où est-ce que c'est, quand on dit ruelle verte, c'est vert pour vrai. Ah ouais.
Mais tu parles, PA, de faire boule de neige, mais je reprendrai la question d'un autre angle aussi. Est-ce que tu penses qu'au niveau nutritionnel, ces choses-là vont faire boule de neige? Cette stimulation du jardinage urbain va avoir des répercussions dans la nutrition ou la façon dont les gens vont s'alimenter en ville, penses-tu?
Peut-être. Tu sais, encore une fois, moi, je suis toujours prudent avec ça, mais c'est sûr, à 100%, on le sait, OK? Un des facteurs qui influencent la consommation de fruits et de légumes, c'est l'accessibilité. Donc, les gens qui vivent, par exemple, dans des déserts alimentaires, donc qui ont peu d'accès à des aliments frais, donc comme des fruits et des légumes, soit parce qu'il n'y a pas de supermarché à proximité de chez eux, soit parce que, je ne sais pas, c'est une personne âgée qui n'a pas de moyens de transport, donc il faudrait qu'elle marche 1 kilomètre, tu sais, puis elle n'est pas capable, ou parce qu'on n'a pas l'argent, donc l'accessibilité financière, ce sont toutes des barrières de notre environnement à la consommation de fruits et de légumes. Donc, le jardinage, l'agriculture urbaine, ça peut améliorer l'accès aux fruits et aux légumes, surtout dans ces contextes-là. Donc, oui, j'aurais tendance à dire que, grosso modo, si tu donnes des fruits et des légumes à cueillir gratuitement dans la population, ben ça va être consommé, puis peut-être que ça va faciliter l'accès à ces aliments-là. Oui. Mais de l'autre côté, je me poserais juste la question à quel point ça a un impact. Dans le sens que, tu sais, à quel point, mettons, ma saillie de trottoir, tu sais, réalistement, là, combien de calories j'ai réussi à produire pour ces gens-là? Ou, tu sais, combien de... Donc là, peut-être c'est trop, justement, en mathématiques, là, puis tout ça, mais je serais curieux de savoir, mettons que demain matin, on prenait toutes les saillies de trottoir puis qu'on les transformait en jardin, réalistement, quel pourcentage, mettons, de l'alimentation de Montréal, on va dire, on serait capable d'avoir? Peut-être que je serais surpris, là, puis qu'on me dirait, hey, ce serait genre 20%. Ben, OK, wow, c'est magnifique. Je sais pas. T'sais, donc ça, ce serait des questions que
j'aurais. En tout cas, la consommation de tomates cerises augmenterait, ça, c'est sûr.
Absolument. Ben oui. Puis, tu sais, ou pour des aliments frais, c'est ça qui est le fun, tu sais. Des aliments qui dépérissent rapidement dans le transport. Tu sais, je pense, mettons, des fines herbes, là. Ben, tu sais, c'est vraiment le fun d'en avoir proche de chez soi. Tu sais, c'est comme, ça vaut la peine, là. En tout cas. Mais oui, c'est sûr que ça pourrait augmenter un
peu. Soit ça où tout le monde est sa diète parce qu'ils n'ont rien à manger, là. Fait que...
C'est sûr que si tu te nourris à partir seulement de ma saillie de trottoir, de basilic et de tomates,
l'été va
être long. Je pense qu'il va te manquer quelques petites choses, ouais.
Bon, on va en savoir plus là, sur les espèces que tu cultives. Tu as parlé de tomates cerises. Y a-t-il d'autres choses que tu fais pousser, Bernard?
Oui, là, je vais essayer de m'en souvenir de tout ce que j'ai planté.
Oh, le cannabis, on veut pas le savoir. Juste tout ce qui se mange, là.
Non, il y a pas de ça. Il y a pas de ça dans mon jardin. C'est juste des choses qui se mangent. Alors, il y a... Okay.
Quoi que ça se mange du cannabis, là, mais bon.
Ah, bon, OK, j'ai jamais essayé encore.
Tu savais pas, hein? C'était... Il en mangeait pas d'être ça au party de nutritionniste, j'imagine. Juste au party d'agronome.
Jamais. Jamais.
Je sais pas quoi tu parles.
La laitue du diable, on connaissait pas ça.
La laitue du diable.
Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon jardin? Donc, j'ai planté du gingembre cette année, beaucoup de gingembre. Ça, c'était cool.
Ah, ouais. Attends un peu, là, du gingembre, ça prend... PA, aide-moi, ça prend beaucoup de chaleur, de température. Ça, il me semble qu'on faisait pousser ça juste en serre au Québec.
Ben, les gens les mettent souvent en serre ou des fois au jardin, on est capable de faire un petit abri pour crinquer la chaleur, mais ça se fait, là. Puis à Montréal, il fait assez chaud l'été, là, on a eu des belles canicules quand même. Au début du podcast, on parlait un peu d'autosuffisance. Moi, je pense que le gingembre, ça fait partie des légumes qui sont quand même faciles à atteindre un bon niveau d'autosuffisance. Mon congélateur, moi, il est encore plein, là.
Ouais, puis, même chose.
À partir d'un rhizome que tu achètes, j'imagine, dans une épicerie bio proche de chez vous, ben, tu vas multiplier facilement x5, puis en serre, là, t'sais, dans des conditions optimales, là, c'est un x10, x15, c'est malade. Là.
Oh my God, OK. Alors, je n'ai absolument pas atteint ce niveau-là. Moi, c'est du x2 à peu près bon que j'ai réussi à faire, puis j'étais bien content.
Je te juge pas, là.
Non, mais regarde, écoute, ça veut dire que j'ai encore place à amélioration, c'est parfait dans mes techniques. Ouais. Mais moi, j'avais aucune serre, aucun abri ou quoi que ce soit. C'est ça, Montréal et ses îlots de chaleur ont quand même vraiment aidé à la pousse du gingembre.
Puis es-tu gros comme celui qu'on voit à l'épicerie, ton gingembre?
Ben oui.
Ah ouais, OK.
Oui, oui, wow. Oui. Non, c'est ça fait vraiment des gros rhizomes, là. Tu sais, il est super beau, il est parfait, il est bon, puis tout. C'est juste la quantité, là. Je me suis pas rendu x5, là. Ça, c'est mon nouvel objectif, là, je pense.
Puis c'est un médicaliment, ça? Aimes-tu ça, ce terme-là, médicaliment?
Oh, je déteste ce terme. Ah ouais? Vraiment.
Médicaliment, ça m'échappe.
Ben, je veux dire, moi, dès que je fais une petite fièvre ou que j'ai une petite toux, ma blonde, elle met du gingembre dans mon café, là, tu sais. Elle me guérit, elle essaye de me guérir avec ça.
elle te met de l'ail dans tes fesses aussi, je pense. Hein?
Non, on parle de gingembre, là. Vas-y, Bernard.
Écoute-moi, par voie orale, on va rester avec ça. Si ça te fait du bien, là, c'est bien correct. Puis c'est bien parfait, tu sais.
Ben non, c'est dégueulasse. Ben non.
Là, moi, je te parle de gingembre dans ton café.
Oui, oui, c'est ça. Là.
OK, je sais ça.
Je te restais oral, moi aussi, là.
Moi, j'adore le gingembre, personnellement. Fait. Mais peu importe. Si ça te fait du bien, puis que tu te sens mieux quand t'es malade, puis tu prends justement là, du jus de citron ou du gingembre ou quoi que ce soit d'autre, c'est bien correct. Comme pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais on a la fâcheuse tendance à croire que les aliments, c'est comme des médicaments, puis qu'on est capable de guérir des maladies, puis tout ça. C'est très souvent exagéré, sincèrement, là, c'est très souvent exagéré et récupéré par l'industrie des produits de santé naturelle ou des diètes ou de l'industrie agroalimentaire, comme ça va être transformé en tendance ou en croyance pour faire de l'argent. Là. Donc, c'est très souvent exagéré. Puis la réalité, c'est que le vrai pouvoir des aliments, il est pas mal plus sur le long terme. T'sais, c'est pas mal plus un pouvoir, oui, préventif des maladies chroniques, mais c'est sur le long terme. Là. Fait que c'est pas, justement, là, c'est pas parce que tu t'as bouffé, je sais pas, comme un gros bout de piment ou je sais pas quoi, que là, tu vas te nettoyer de l'intérieur puis ça va comme guérir tout ça. C'est pas le même que ça fonctionne. C'est quand tu manges des fruits puis des légumes toute ta vie en grande quantité, ben, ah oui, rendu à genre 65 ans, t'auras peut-être moins de risque de X, Y, Z maladie. Fait que, il y a quand même une limite, je pense, au pouvoir des aliments. Il y en a un, là, il y a clairement un impact sur ce qu'on mange sur la santé, mais faut pas. Personnellement, j'aime pas tant le terme des. Ce qu'on appelait aussi les alicaments, là, mais.
Bon.
C'est vraiment des termes qui ont été développés par l'industrie agroalimentaire pour nous vendre des produits avec des propriétés particulières, ben, en nous promettant des propriétés particulières.
Donc, j'aurai des arguments maintenant pour refuser la tisane au gingembre de ma blonde, alors que je file déjà pas, tu sais.
Mais. Le gingembre, je pense que c'est quand même une exception. Puis je suis pas le pro là, justement dans cette catégorie-là. Mais je sais que le gingembre et les problèmes digestifs, genre les maux de ventre ou la nausée, je sais qu'il y a quand même de la science là-dessus. Puis que oui, c'est un des rares aliments que oui, pourrait avoir certains bénéfices, ça se pourrait. Encore une fois, il y a toujours une limite à tout. Là. Mais de tout ce que j'ai entendu, il me semble que le gingembre, c'est peut-être le seul. Là, que... Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, là, moi, dans la vie, je suis comme... Regarde, quand ta blonde te fait... Pour vrai, là, quand ta blonde te fait une boisson au gingembre, une petite boisson chaude, là, juste le fait de te faire occuper de toi-même, t'es juste mieux, tu comprends? Juste qu'elle a eu une petite attention, déjà là, tu vas te sentir mieux. Puis la petite boisson chaude aussi, ça peut être aussi juste l'eau chaude aussi qui va te faire du bien, puis c'est bien correct.
Une chance qu'on s'aime.
Oh, c'est beau.
OK, donc, tomates, cerises, gingembre, quoi d'autre, s'il vous plaît?
Ouais, j'ai planté des radis, j'ai planté des finisères, fait que j'avais beaucoup de basilic, du romarin, de l'origan. J'avais de la gastache fenouil que j'ai planté une fois puis qui est juste comme... c'est pour toujours. Là. Ça se ressème chaque année, donc c'est infini. J'avais des tournesols.
Oh.
J'ai pas mangé une seule graine de tournesol. Les écureuils, ils ont toutes bouffé avant moi. mais ils étaient super beaux.
Y était-il plus grand que toi?
Ah, beaucoup plus grand que moi.
Ah ouais, wow.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que moi. Ils sont vraiment énormes. Sincèrement, là, je ne sais pas pourquoi. Ben, j'ai des hypothèses, là. Je pense que la chaleur joue vraiment, là, mais
ouais.
Ce coin de rue que j'ai décidé d'adopter, je te jure, il est magique. Comme tout là-dedans pousse, mais à des proportions que j'ai jamais vues de toute ma vie. C'est incroyable. Puis c'est pas de la terre de qualité, là, tu sais, c'est comme...
C'est au coin de la rue Panoramix et...
Oui, c'est ça. Mais tu sais, je mets plein d'engrais, là. Tous les engrais que je trouve, je les mets... Non, pas tout, justement. On s'occupe presque pas... Ben, pas qu'on s'en occupe pas, mais tu sais... Hey, sérieusement, j'arrose en début de saison, puis après ça, j'arrête d'arroser. Tu sais, vraiment, là, on s'en occupe pas tant. Puis sincèrement, c'est magique. Là. Fait que,
ben, si c'est à côté d'un bar à 3h du matin, il y a du monde qui s'occupe de mettre de l'engrais et de l'arroser à la place.
Écoute, si regarde, moi je me suis dit c'est ça, peut-être des petits des ajouts naturels qui se font pendant la nuit, écoute.
Du fumain.
Tant mieux.
Du fumain, c'est du fumier humain.
Ouais. c'est du fumain.
Ah, wow.
Mais là, ça, tu parles pas juste de ton balcon, là, c'est encore dans les saillies de trottoir. Là,
je te parle vraiment de la saillie de trottoir, ouais. Tu sais, sur mon balcon, là, ce que j'ai décidé de garder, c'est surtout des petits fruits. Fait que j'ai deux plantes camerises.
Ah, ouais.
J'ai quoi d'autre que j'ai gardé? Hey, j'oublie, là. J'ai des tomates. Non, un peu la même chose. Tomates, piments. Ah oui, puis en bas, j'ai des groseilles, j'ai des bleuets aussi. Faut que je retourne voir, là. Tu vois, en ce moment, là, on est rendu au mois de mars, là. Comme ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, mon jardin, là. Fait que je sais plus de quoi il a l'air.
Mais toi qui aime jardiner, tu dois avoir le goût de déménager à l'extérieur de l'île de Montréal affreusement.
Ben depuis que j'ai ma saillie de trottoir, ça a vraiment comblé mon besoin. Parce qu'avant ça, quand j'étais juste sur mon balcon, j'avoue qu'il me manquait un peu d'espace. Même si j'ai la chance d'avoir un super gros balcon et j'ai la chance d'avoir un chum qui est très compréhensif et qui accepte que mon balcon est littéralement une serre et qu'il y a de la place pour une chaise pour s'asseoir dessus, pas de barbecue. Fait que ça, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de compréhensif. Mais sinon, j'avoue que ça me manquait. Mais là, depuis que j'ai ma saillie de trottoir, ça a vraiment, vraiment, vraiment comblé mon besoin de terre.
Si tu déménageais à Victoriaville, en campagne, est-ce qu'on t'appellerait le nutritionniste rural?
Mais tu vois, là, ça changerait tout mon branding. Là. C'est bien trop compliqué. C'est trop... Moi,
ouais,
je reste à Montréal.
Ouais, voilà. Ton nom est fait, fait que...
Ouais, j'ai pas le choix. Jusqu'à ma retraite, au moins.
Moi, à Noël, cette année, j'ai offert tes sachets de semences à ma sœur et mon beau-frère. Nice. Ça a été vraiment... un gros, gros, gros hit, là. Eux aussi jardinent en ville, mais à Québec, dans la cour. C'est magnifique, là, ce qu'ils font. Puis,
c'est quoi ça? Attends un peu, là. Tu vends tes semences sur Internet? C'est quoi cette affaire?
Je vends mes graines sur Internet, puis je fais bien de l'argent avec ça.
T'as un OnlyFans ou...
Attends, j'essaie de trouver un jeu de mots pas trop...
On parle de fans de carottes, là. C'est des fans de carottes, Bernard. C'est le feuillage qu'on parle, là.
Oh! Ouais. Ah, j'aime ça.
Attendez, expliquez-moi, là, je comprends rien. Là. C'est quoi ce
Only fan.
Ouais, c'est des...
Ah, les fans, oh my ouais. God.
C'est beau, bon,
ça
là,
prend 120
bon.
Crédits pour la comprendre, celle-là. Là.
C'est... Mais ça vient d'où, cette idée-là?
Alors ça, c'est vraiment mon projet inattendu de vie, là, je te dirais. Ben, inattendu et non, parce que, encore une fois, j'ai toujours eu une passion pour le jardinage. Puis grosso modo, donc, il y a 6 ans, j'ai démarré un projet avec une semencière qui s'appelle Lynn Bellemare, qui est une compagnie qui s'appelle Terre Promise, qui est à l'île Bizarre. En gros, je participais à l'école d'été d'agriculture urbaine à l'UQAM un été comme étudiant. Et Lynn était conférencière, puis elle faisait une conférence sur les semences ancestrales et comment les préserver. Puis j'ai capoté sur elle. Genre, je l'ai trouvée fascinante, comme la façon dont elle parlait, ça m'a vraiment accroché. Mais sur ce sujet-là, puis de me dire... qu'il y avait des variétés de fruits et de légumes qui disparaissaient parce qu'on avait arrêté de les cultiver, qui étaient devenus très rares ou qui avaient disparu et tout ça, et qu'il y avait des gens qui travaillaient pour s'assurer que ça ne disparaisse pas et qu'on puisse encore y avoir accès. Moi, j'ai capoté là-dessus, puis j'ai réalisé rapidement, un peu comme j'ai dit plus tôt, à quel point le jardinage peut être une façon de créer un lien avec les fruits et les légumes. Fait que j'ai tout de suite compris le lien comme nutritionniste de me dire si je suis capable d'avoir des fruits et des légumes qui ont des histoires intéressantes, qui vont accrocher les gens, ben je suis capable de les motiver à manger des fruits et des légumes juste par ce storytelling-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait qu'on a parti il y a 6 ou 7 ans ce projet-là, qui était des livrets de semences ancestrales, grosso modo des petits livrets avec 4 variétés différentes où on raconte leur histoire, comment les cultiver, etc. Puis ça a été vraiment un hit dès la première fois, comme... Dans le fond, on n'arrivait jamais à fournir à la demande. Pendant 3-4 ans, chaque année, ben même un peu plus, là, je sortais un produit. En 24 heures, c'était sold out, c'était fini. Pour un an, on n'avait plus de stock. Fait que là, chaque année, c'était la même chose, même histoire, même si on augmentait à chaque fois. Et là, pendant la pandémie, quand tous mes projets se sont effondrés du jour au lendemain, surtout toutes mes conférences, mes tournages, ces affaires-là, ben je me suis dit, OK, peut-être que c'est le bon moment pour... investir plus dans cet aspect-là de ma business qui est les semences. Donc là, j'ai développé le coffret de semences qui était donc un coffret avec 8 petites boîtes de semences et un guide de jardinage que j'ai rédigé. Même chose, ça a été vraiment un hit comme qu'on ne s'attendait pas. Fait qu'en 24 heures, encore une fois, tout était vendu. Fait que là, cette année, pour la première fois, en fait en 2021, là, à l'automne 2021, j'ai sorti une nouvelle collection de boîtes de semences, mais cette fois-ci avec plein de semenciers au Québec. Fait que là...
OK, puis là, si ça marche, tu vas-tu t'y attendre ou...
Ben là, cette année, on est correct. Cette année, pour la première fois, j'ai encore du stock puis je suis capable de fournir à la demande. Mais ça a été vraiment, vraiment difficile puis ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour y arriver. Mais la façon dont j'ai réussi à le faire, c'est pas en créant un réseau de semenciers. Puis c'est ça que je trouve vraiment le fun parce que c'est un métier que je veux mettre de l'avant. Puis c'est les personnes qui le font, c'est du monde là, que je veux dire, hey, c'est un travail là, complètement cinglé. C'est incroyable. C'est fou. Dis-toi, là, c'est bien plus tough que d'être maraîcher, là. Parce que faut que tu cultives tes fruits, tes légumes, tes fines herbes, puis tu les manges pas, là, tu les cueilles pas quand ils sont prêts. Tu les laisses dans ton champ même quand ils sont prêts, puis il faut qu'ils dépassent le stade pour qu'ils produisent les semences. Puis même une fois que les semences sont prêtes, faut que tu les prépares, ces semences-là. Faut que tu ouvres chacun de tes légumes puis tes fruits, que tu récoltes des semences, que tu les prépares, que tu les mettes dans des sachets. Fait que c'est... Il y a tellement d'étapes, et tellement d'étapes veut dire tellement de moments où ça peut foirer, que c'est un travail absolument... C'est fou. C'est vraiment, là, tu regardes ça aller, c'est incroyable. Fait que bref, c'est vraiment cool de pouvoir, donc, d'avoir créé ce réseau-là. Pour, là, je travaille déjà, évidemment, à la prochaine collection. Là, je vais être rendu avec 6 semenciers à travers le Québec, plein de nouveaux produits, puis mon but, c'est vraiment ça, de créer ce réseau-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est, tu sais, quand on parle d'agriculture, on parle souvent de l'importance de la diversité dans les jardins, puis comment ça peut avoir des impacts positifs, puis comment c'est, surtout sur la résilience. Ben c'est exactement ça, en fait, que j'ai réalisé avec mon réseau de semenciers que j'ai créé, c'est la résilience. Fait que si il y a des semences qui ne marchent pas dans un jardin chez un des semenciers, ben il y en a un autre semencier qui va avoir réussi à le produire, puis que je vais pouvoir avoir accès à ces semences-là. Fait que c'est, je trouve que les parallèles sont vraiment intéressants parce que je réalise que même d'un point de vue business, il y a des parallèles qu'on peut faire avec des principes écologiques.
Moi, le parallèle, je ferais, c'est quasiment avec celui d'un chef, là, mettons, en restauration. C'est que c'est aussi que le produit, de la manière que tu le livres, il est très beau dans son emballage, dans sa présentation, un peu comme un chef qui cuisine une tomate, là, mais à sa façon, puis qui met ça beau dans l'assiette. Fait que ça attire l'œil, puis peut-être ça va inciter aussi des gens, justement, à essayer autre chose, puis à jardiner, puis à s'approvisionner via des réseaux alternatifs plutôt que d'aller en quincaillerie, là. Nous, on encourage souvent les gens à se tourner vers des professionnels, donc des semenciers ou des semencières du Québec, idéalement, ou des centres jardins, là, puis d'y aller, finalement. Ça fait une différence pour ces gens-là aussi, là.
Ouais, mais merci. C'est... Puis, tu sais, oui, c'était vraiment un de nos objectifs, c'est d'encourager du monde qui ne sont pas habitués à jardiner ou qui ne l'ont jamais fait. Puis, à cause de la présentation, puis à cause de mes réseaux de distribution, même aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans les quincailleries, tu comprends? Moi, je suis dans les boutiques de cadeaux. Fait que, on va chercher carrément une autre clientèle. Puis, tu as tout à fait raison aussi, c'est que en ce moment, les gens, ils ne savent pas, mais il y a plein de semences. En fait, la majorité des semences que les gens achètent ne viennent pas du Québec, tu sais. Elles viennent d'ailleurs dans le monde, parfois qui ont été produites dans des conditions horribles. Donc, par des femmes ou des enfants sous-payés qui sont exposés aux pesticides et tout ça. Puis ça arrive ici, puis nous, on l'achète, puis on n'y pense pas vraiment. Mais c'est ça. Donc, il y a une importance, je pense, à acheter nos produits du Québec parce qu'on sait que les gens sont payés à leur juste prix, qu'il y a des conditions de travail qui sont adéquates. Donc, il y a clairement des bénéfices à acheter des semences ici. Puis oui, je pense que c'est important de faire compétition, entre guillemets, à ces semences-là qui viennent d'ailleurs. Parce que, honnêtement, là, je vais être super transparent. Si je me disais, tant pis, j'achète plus des semences du Québec puis je vais juste m'approvisionner ailleurs, je pourrais probablement couper mes prix de moitié.
C'est sûr.
De mes produits. Puis tout le monde, puis les consommateurs seraient probablement bien contents, seraient comme, waouh, mon Dieu, ça coûte pas cher. Puis il y en a qui le font, là. J'en vois, là, des produits dernièrement. J'ai vu dernièrement des produits, en tout cas, vendus à un prix que je ne pourrais jamais accoter. Jamais, 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 jamais. Mais pourquoi, tu penses? Mais c'est parce que leurs semences doivent venir de je sais pas où, puis elles ont été faites dans des mauvaises conditions. Fait que c'est ça. C'est vraiment un défi quand tu fais une entreprise, mais que tu as des valeurs environnementales ou des valeurs sociales. C'est comme vraiment un défi supplémentaire.
Je pense que ça, c'est une question d'éducation comme bien des sujets, finalement. Parce que la semence comme telle, c'est pas un intrant qui est très cher en agriculture, mais des fois, c'est une question de perception que les gens ont, mais c'est pas le gros de la dépense, là. Mm-hmm. L'autre parallèle que je ferais, c'est avec le fait de manger local, puis à mon sens, idéalement local et bio. C'est pas juste pour ta santé à toi comme consommateur, mais c'est pour les gens finalement qui travaillent dans ce domaine-là et l'environnement aussi dans lequel ces gens-là travaillent. Puis ça fait une super belle différence pour ce monde-là finalement. C'est juste d'être cohérent, là. On veut une économie forte d'un sens, mais on veut pas que ça nous coûte cher de l'autre. Mais je pense qu'il y a des priorités des fois qui sont peut-être pas mises au bon endroit, là. Puis moi, souvent, on parlait un peu de en tout cas, le podcast, c'est du jardinage, là, mais je m'amuse souvent à dire que je transforme peut-être 1$ d'intrants, ce qui inclut les semences, en 5$ de légumes. Mm-hmm. Mais on s'entend là-dedans que ça dépend aussi. Je compte pas mon taux horaire de professionnel là-dedans, mais c'est pas grave parce que c'est un hobby, c'est un passe-temps, c'est un plaisir, une activité que je fais parmi d'autres, là.
Ouais, puis moi aussi, je le vois vraiment comme ça aussi. Tu sais, j'utilise jamais l'argument monétaire pour encourager les gens à faire du jardinage parce que c'est clairement plus efficace d'aller acheter ton paquet de tomates à l'épicerie. C'est clair.
Ouais.
Mais c'est le fun.
En lien avec ce produit-là là, de petits boîtiers de semences, tu dois recevoir beaucoup de feedback vraiment cool. Là. Tu dois avoir un coup de boomerang d'amour, puis tu dois avoir plein de beaux petits jardins au Québec.
C'est tellement cool parce que je le vois tout de suite. T'sais, mettons, je sais quand les gens commencent à faire leur semis, parce que là, du jour au lendemain, je me mets à être tagué sur Instagram, genre partout, des gens qui mettent des photos, ils font leur semis. Puis après ça, le plus le fun, évidemment, c'est quand ils nous taguent sur leur récolte. Puis sur leur jardin. Puis là, c'est juste incroyable. T'sais, je me souviens, il y a une histoire en particulier l'année dernière qui m'a absolument fait capoter. C'est parce que de toutes les variétés qu'on vend, la plus difficile, je te dirais, c'est le melon de Montréal.
Ouais.
Parce que le melon de Montréal, grosso modo, c'est une variété ancestrale.
Qui pousse sur Sainte-Catherine, je pense. Hein?
Qui pousse sur Sainte-Catherine, exactement, au coin de Saint-Laurent seulement. Mais non, mais qui était cultivé à Montréal il y a à peu près une centaine d'années, un peu plus, OK? Puis c'est une variété ancestrale qui a connu comme... Il y a beaucoup de communication qui a été faite autour du melon de Montréal. Fait qu'il y a une espèce de légende qui s'est créée autour. Puis les gens le connaissent. Puis souvent, quand on parle de semences ancestrales, c'est la variété qu'ils connaissent ou dont ils ont déjà entendu parler. Mais le melon de Montréal... Ben, de un, il y a encore des controverses sur est-ce qu'on a vraiment la bonne lignée de melon de Montréal. Fait que de un, il y a cette controverse-là. Mais en plus... Il est difficile. Il est extrêmement difficile à cultiver. Donc, mais les gens, ils le veulent. Donc, nous, on continue à le vendre quand même parce que les gens le demandent continuellement puis c'est comme ça les accroche, mais sincèrement, il est vraiment difficile.
C'est comme si tu vendais un puzzle qui manquait une pièce tout le temps. Là. Tu continues à le vendre.
Mais honnêtement, c'est des questionnements que j'ai... je parle vraiment de tous mes questionnements de vie là, mais, ou d'entreprise, mais ça, c'est un des vrais questionnements que j'ai eu, c'est par rapport au melon de Montréal, parce que je veux que les gens aient du plaisir en jardinant puis je veux qu'ils aient des succès. Puis je trouve ça plate quand tu cultives de quoi puis ça fonctionne pas. Surtout quand c'est genre à la dernière minute, tu sais, comme que le plan avorte après genre 3 mois de... Tu sais, c'est comme tellement triste.
Oh, ouais.
Mais le melon de Montréal, il est vraiment tough. Sauf que, l'année dernière, il y a une fille qui avait planté des melons de Montréal sur son balcon à Montréal, dans des pots. Puis là, je suis comme, n'essaie pas de planter des melons dans un pot, comme, oublie ça, là, ça marche pas. Mais, le plan a rampé jusqu'en arrière de son barbecue, puis elle s'est pas rendue compte, mais il y a un melon qui a commencé à pousser en arrière de son barbecue. Puis elle s'en est rendue compte, genre, un mois plus tard, quand le melon était rendu gros comme... Je sais pas, là, au moins une grosse balle molle, là, peut-être plus gros que ça, tu sais. Puis là, elle fait que là, c'est comme devenu l'histoire sur Instagram où est-ce qu'elle taguait l'évolution de son melon de Montréal sur son balcon. Elle lui a fait comme un petit hamac, puis elle a fait full attention. Puis finalement, elle a réussi là, à le garder jusqu'à la fin, puis elle a fait pousser un melon de Montréal sur son balcon, puis elle a fait une dégustation sur Instagram où est-ce qu'elle montrait, genre, qu'est-ce que ça goûtait, puis nanana, puis tout ça. Puis j'étais comme, j'avais le goût de pleurer, là. Genre, j'exagère, mais presque pas, parce que j'étais comme... OK, je peux pas croire. Tu sais, c'est incroyable que tu aies réussi à faire ça. Je pense que tu es comme une des seules dans le monde, probablement, qui a réussi à faire pousser un melon de Montréal sur son balcon, puis qui, en plus, a réussi à le rendre jusqu'à la fin. Mais j'étais comme, ça vaut tout l'or du monde pour moi, ces histoires-là. Tu sais, c'est fascinant. C'est une histoire qui date il y a plus que 100 ans. Là. C'est un lien avec le passé direct. C'est moi, en tout cas. Fait que ça, quand je suis tagué sur Instagram de gens qui font pousser des trucs, là, avec nos semences, pour moi, c'est comme le plus beau succès. Là. C'est incroyable.
Bon, Bernard, moi, je veux entrer dans le défi du melon de Montréal. je vais me procurer ta fameuse semence de melon de Montréal. Puis PA et moi, on va se mettre à populariser puis à le faire pousser. Puis on va participer à ce challenge-là.
Mais faut-tu que je l'appelle le melon de Tinouic ou le melon de Victoriaville? S'il est en dehors de Montréal, c'est comme le piment d'Espelette, ça. En dehors d'Espelette, on l'appelle pas pareil.
C'est pas une appellation d'origine contrôlée encore. Ah. Fait que mais on va garder le melon de Montréal pour le moment. Mais si tu veux, je vous enverrai. En fait, je me demande si je pourrais pas les mettre publics. Mais j'ai trouvé. Donc, parce que je suis un grand fan aussi de vieux livres dans la vie. Puis je fais vraiment toutes les librairies de livres comme poussiéreux et vieux et tout ça. Et je suis tombé sur un vieux manuel d'agriculture de l'école de Aoka, je pense.
OK, ouais.
L'école d'agriculture de Aoka. Des années 40, je pense, ou un petit peu avant, ou années 30, quelque chose comme ça. Et dedans, il y a 8 pages à peu près spécifiques sur la culture du melon de Montréal, genre les techniques ancestrales spécifiques pour ce melon-là. Fait que si vous voulez, je vous enverrai les techniques spécifiques. Fait que déjà, de mettre un spécialiste là-dessus, en plus avec les techniques d'il y a 100 ans, là, je me semble que on augmenterait nos chances. T'as-tu du fumier de cheval près de chez toi, par hasard?
Il y en a de moins en moins des chevaux. Fait qu'il y a de moins en moins de fumier. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a un zèbre à Tinwick. Je sais pas si ça pourrait compenser, mais je pourrais trouver
est-ce
ça.
Est-ce que c'est vrai?
Oh ouais, c'est pas des blagues. Fait que ça m'a toujours impressionné. J'amène les enfants des fois dans le rang pour aller le voir. Là. Je vous sens dubitatif, messieurs, mais je confirme qu'il y a quelqu'un qui a un zèbre à Tinwick.
OK, mais si tu fais pousser un melon de Montréal avec
du fumier de zèbre,
là... Ça, c'est une histoire à 100 piastres et même
ouais,
plus, là.
Ouais, ouais.
Tu feras des petites enveloppes et des petits sachets de fumier de zèbre que tu vendras avec l'histoire du zèbre.
Si je sors un melon comme la fille de ton histoire, je pense que je vais l'appeler Bernard. Je vais lui donner je vais le baptiser.
Mais après, ça va pas être weird de le manger?
Bon.
Ouais, ça fait partie des histoires agricoles, ça.
Je m'excuse d'interrompre votre discussion de marde, mais c'est de zèbre. Alors, c'est de la grande discussion, mais oui. je dois absolument remercier Bernard pour le temps qu'il a passé avec nous autres, puis toutes les lumières, puis aussi pour ce que tu fais, Bernard, pour la grande cause que nous portons tous, celle de populariser le fumier de zèbre et le melon de Montréal.
Ben merci, pour vrai. Hey, ça a passé bien trop vite, là.
On se reprendra, on va continuer de te suivre sur tes réseaux sociaux, dans tes entreprises puis tes livres. On te remercie énormément encore une fois. Merci Pierre-Antoine Gilbert d'avoir participé à cet bel épisode. Et on se revoit très bientôt, messieurs, pour un autre Une chance qu'on s'aime.
Une chance qu'on s'aime.
Cet épisode était une présentation de notre partenaire principal, le Réseau des fermières et fermiers de famille, qui est un réseau solidaire de producteurs maraîchers et de consommateurs soucieux de leur alimentation et de l'environnement. Merci au RFF de porter cette cause-là qui est tellement importante. C'est un geste de développement durable qui dure depuis déjà 25 ans. Merci d'exister et de faire partie de la solution.
Et merci à notre partenaire, le Fertifras, un fertilisant organique tout usage, 100% fumier d'insectes, 100% biologique et 100% québécois.